Europe Soir Weekend.
Thierry Dagiral.
Les grandes voix.
Et voici votre rendez-vous du week-end, les grandes voix d'Europe 1 ce samedi 19 juin, en débat jusqu'à 19h. Avec nous ce soir, Laetitia Krupa, journaliste politique. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir.
Philippe Moreau-Chevrolet, profession Sciences Po, spécialiste de la communication politique. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Thierry.
Et Bruno Jeudy, éditorialiste et rédacteur en chef à Paris Match.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Bruno. Alors on est privé de politique aujourd'hui. Pas de politique, messieurs, dames. La campagne est terminée depuis minuit.
Bon, bah, salut.
Soirée électorale. Demain soir, dès 19h30, sur Europe 1, nous serons là. Nous serons bien sûr en région avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux, pour vous faire vivre ces résultats. Alors, on ne va pas parler de politique, mais on va parler géopolitique. Géopolitique qui se joue derrière les matchs de l'Euro que vous suivez. Laetitia, j'imagine.
Évidemment, bah évidemment, je n'ai fait que ça toute l'après-midi. J'étais devant le match.
Hongrie-France.
Oui, oui, 1-1. Non, non, j'ai tout suivi. Ouais. J'ai tout
finalement,
suivi.
Ce match, est-ce que c'était, c'était un match Orban-Macron, Laetitia?
Non, alors passer la polémique sur le genou à terre qui n'a finalement jamais été mis à terre par les joueurs français. Ouais. Et effectivement, ils allaient être scrutés en Hongrie puisque le président hongrois avait dit que on ne s'agenouille que devant Dieu, la patrie et, il me semble, la femme qu'on va épouser. Ouais. Bon, passer cette histoire-là, effectivement, je ne vois pas vraiment la géopolitique derrière ce football, mais je suis sûr, Bruno, que vous la voyez.
Bruno. Orban se sert quand même de son équipe nationale.
Absolument.
Pour exister sur la scène européenne.
Exactement dans cette optique. Il veut se servir du sport. D'ailleurs, il a l'intention d'investir beaucoup dans le football. Il veut miser sur le football, qui est évidemment, comme dans tous les pays européens, le sport numéro un. Accroître encore plus l'esprit de nationalisme qu'il y a en Hongrie et ailleurs. Et le football peut avoir de bons côtés, mais peut avoir aussi de mauvais côtés. Et son équipe de football, il veut en faire une vitrine. Alors, je peux vous dire que ce soir, en ayant fait 1-1 contre les numéros 1 mondiaux, l'équipe de France,
c'est une victoire personnelle.
Et d'ailleurs, on a vu les joueurs dès la fin du match se congratuler. Ensuite, aller devant le public, la main sur le cœur, j'allais dire communier avec le nombre public. C'était quand même la première fois que les Français rejouaient devant un stade de 60 000 personnes. Et il y avait une ambiance qui était, je pense, assez incroyable, mais qui a pu un peu déstabiliser les Français qui n'étaient pas habitués. Il n'y a pas eu visiblement d'ambiance anti-française comme on pouvait le redouter. Pour la petite histoire, Thierry, et peut-être que ça ne vous aura pas échappé, il faut savoir que dans cette équipe, dans le 11 de départ, il y a un joueur qui est né en France, qui a joué au FC Nantes avant d'être naturalisé, il s'appelle Nego, avant d'être naturalisé hongrois. C'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a des joueurs français, ils sont tellement bons les Français, qui peuvent être naturalisés. Il y en a un qui joue en Hongrie, il y en a un autre qui joue en Espagne.
Philippe Moreau-Chevrolet, vous pouvez d'ailleurs donner votre expertise sur ce point-là, mais quand on regarde hier, par exemple, il y avait Angleterre-Écosse, 0 partout, j'imagine que là, Boris Johnson a dû dire aussi « ouf, hein ».
Oui, c'est clair. Alors, d'autant plus qu'il y a une vraie, depuis le Brexit, il y a un vrai regain de nationalisme écossais. Alors, tous les Européens utilisent leur équipe de football pour faire leur promotion. En Autriche, la couleur que défend, qui est une sorte de turquoise, qui est la couleur du chancelier Kurz, a été reprise sur les maillots de l'équipe de foot nationale. C'est la première fois que ça arrive en communication politique, en tout cas en Europe, cette utilisation clairement de la couleur de campagne du chancelier pour une équipe nationale de football. Erdogan, en Turquie, utilise les équipes de foot d'une façon très particulière, puisqu'il est en train de remettre en quelque sorte au pas les clubs de supporters pour en faire des clubs qui promeuvent son image à lui, sachant qu'il y avait chez les supporters pas mal de gens assez contestataires. Donc il y a un vrai verrouillage qui est en train de s'effectuer.
Et
effectivement, c'est un peu comme l'Église, quoi. On met les équipes de foot au diapason du pouvoir.
Bruno.
Oui, surtout, Philippe a raison, parce qu'en Turquie, il y a notamment tous les clubs stambouliotes où les clubs sont quasiment affiliés presque à des partis. Et du coup, ça crée des tensions dans la ville qui sont très, très fortes. Et comme Istanbul est vraiment le haut lieu un peu de l'opposition à Erdogan, Erdogan, bien évidemment, surveille tout ça. La géographie des supporters influe sur les rapports politiques en Turquie.
Laetitia Krupa, il faut bien redire que l'Euro de foot a été créé après la Seconde Guerre mondiale.
pour ne jamais recommencer cette guerre et pour pacifier cette Europe ?
Oui, alors là, on va loin. Effectivement, on n'est que dans le symbole, hein, Thierry. Oui, bien sûr que oui, c'est un instrument politique éminent. Pourquoi ? Parce que le foot représente le peuple. Pour un homme politique, le calcul est très rapide. Il court après ce peuple, il court après la popularité. Voilà, le fantasme de l'homme politique, c'est de fédérer derrière lui la nation entière. Et bien sûr, on le sait très bien qu'une équipe de foot réussit cet exploit-là. On l'a vu en France. Et donc, bien sûr que le politique, mais comme quand il regarde une rockstar, vous voyez, quand on lit Édouard Philippe qui est ébahi devant les funérailles de Johnny Hallyday, on comprend un petit peu ce qui se passe dans la tête des politiques. Donc oui, évidemment, c'est tout à fait naturel, ce lien entre la politique et le football.
Les grands événements sportifs sont les événements aujourd'hui, les rares événements où les peuples communient avec leurs idoles. Footballeurs, on le vivra en 2023 avec les rugbyman, une équipe de France qui marche très bien, mais cet été, vous verrez que le président, le Premier ministre précipiteront pour féliciter les médaillés d'or que la France remportera, on espère le plus important. Et d'ailleurs, pour les Jeux Olympiques de 2024, l'objectif, c'est de faire aussi bien que les Anglais, ça a été fixé. C'est-à-dire qu'en gros, on doit essayer de gagner autant de médailles. Les Anglais, je crois, ont tapé les quelques 100 médailles en tout.
C'est ça.
L'objectif, c'est ça. Je ne sais pas si les Français sont capables de le faire, mais je veux dire, on mesure la puissance d'un pays aussi au nombre de médailles. Il y a une course entre les États-Unis et la Chine depuis quelques années pour savoir qui aura le plus de médailles.
Mais aussi, factuellement, nos démocraties, on ne cesse de le répéter, sont fragmentées, sont morcelées. Donc bien sûr, dès qu'il y a un levier comme ça puissant de ciment national, on se jette dessus et on l'utilise, puisque vraiment le politique est à la recherche des moyens pour à nouveau qu'on fasse société et mettre du lien entre chacun. Donc évidemment, le football, c'est quand même l'atout majeur.
Philippe Moreau-Chevrolet, je voudrais qu'on s'arrête sur un autre match qui pourrait avoir lieu en quart de finale, c'est Russie-Ukraine, match qui avait été interdit, on s'en souvient, en 2014.
Oui, alors Russie-Ukraine, c'est extrêmement sensible. On connaît les relations qui sont quasiment, enfin, c'est à la limite de la guerre, hein. C'est de la guerre froide entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine a très peur de ce que la Russie pourrait lui faire. Ça va très loin, ça a entraîné un schisme au sein de l'Église orthodoxe. C'est-à-dire que Poutine a refusé que l'Église orthodoxe, une partie d'entre elles, se prononce en faveur de l'Ukraine et a donc provoqué, a demandé en gros à la communauté orthodoxe, à l'Église, de se prononcer pour ou contre l'Ukraine. Et ceux qui n'ont pas voulu se prononcer pour, eh bien, ils ne font plus tout à fait partie de la même Église aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est très, très, très viscéral en Russie en ce moment. Et donc on a très peur que ça dégénère par supporters interposés. On a très peur que Moscou en profite aussi pour faire une opération de force ou d'intimidation, ou l'inverse d'ailleurs. Donc c'est à très, très haute tension. Mais le football, c'est la politique, c'est la guerre qui est euphémisée, c'est la guerre qui est mise en scène.
Ouais. J'ouvre une parenthèse, là, parce qu'on suit en fil rouge le match, bien sûr, qui oppose le Portugal à l'Allemagne. Deuxième but de l'Allemagne, 2-1 donc pour l'Allemagne face au Portugal, à la 42e minute de jeu. Justement, est-ce qu'une rencontre peut déclencher une guerre ? Je pense bien sûr, Bruno Jeudy, à la guerre en ex-Yougoslavie. On dit que ça a commencé par cette rencontre Serbie-Croatie. Voilà. C'était l'étincelle, on va dire.
Dans les Balkans, où la moindre étincelle pouvait provoquer d'importantes confrontations entre les différentes fractions nationalistes, les matchs de football, traditionnellement, étaient des lieux de début de conflits. Qui sont devenus conflits dans les stades, puis conflits armés en dehors du stade. On sait que de tout temps, en plus, les stades ont souvent été symboliques de lieux qui devenaient des lieux d'exécution. Je pense pratiquement dans beaucoup de guerres. Ouais. En Irak, ça a été le cas, et notamment en Serbie, où je ne sais plus quel stade olympique, puisqu'il y a eu les Jeux olympiques d'hiver, a servi aussi de lieu d'exécution dans les guerres de Balkans.
Laetitia, vous vouliez dire quelque chose.
Je voulais rebondir sur
Sarajevo.
Oui, sur cette mise en scène symbolique de la guerre sur un terrain de foot. Évidemment, on y pense tous, mais attention quand même. au dérapage un peu facile. J'utilise le mot dérapage vraiment à dessein parce que la une de l'équipe qui, après la victoire de la France sur l'Allemagne, titre comme en 18, beaucoup l'ont trouvé de très mauvais goût. J'en fais partie. En fait, il ne faut pas céder à cette facilité-là. C'est tellement, encore une fois, évident, cette symbolique de la guerre que ça ne sert à rien de le souligner, il me semble.
Je voudrais qu'on termine aussi sur cette façon d'exister, bien évidemment, pour les pays. Le Kosovo a failli se qualifier pour l'Euro. C'est finalement la Macédoine du Nord qui a eu son ticket. Il faut exister, on l'a dit, hein, coûte que coûte, par le foot, Bruno Jeudy.
Ah oui, sur la à l'heure de la mondialisation, les grands événements sportifs et évidemment le football qui reste le sport numéro un dans à peu près les trois quarts pour les trois quarts de la planète, même si on sait que dans les pays d'Asie le football a un peu moins de visibilité, c'est absolument une fenêtre nécessaire et notamment. On l'a vu en Europe avec tout l'explosion du bloc de l'Est a fait qu'il y a une multiplication des pays et chaque pays se bat pour pouvoir exister dans ces grands événements, le football notamment. Et d'ailleurs, les instances européennes ont facilité cette visibilité puisqu'elles ont augmenté le nombre de pays qui y participent. Il faut bien voir que si aujourd'hui on était dans une compétition où il y avait 16 pays autrefois, on a doublé quasiment. Et c'est l'idée aussi de pouvoir élargir, j'allais dire, le cercle des grands pays du football. Ouais. Et les petits comme les grands pays peuvent accéder à ce cercle-là. Et notamment les pays de l'ex-Yougoslavie ont beaucoup servi de ça pour flatter aussi leur nationalisme.
Et le meilleur exemple, Laetitia Krupa, pour exister, c'est bien sûr le Qatar.
Oui.
Organisation de la Coupe du Monde, bien sûr.
Ah bah ça, oui, évidemment.
Le PSG.
Oui, évidemment. En plus c'est gros, plus ça passe, j'ai l'impression. Donc le Qatar, il n'y a aucun problème. Sur la scène géopolitique, footballistique, il tire son épingle du jeu et on le regarde de façon impuissante.
On verra, aucun problème. Je prédis, moi, quand même pas mal de polémiques avant cette Coupe du Monde.
Oui.
D'abord, elle va avoir lieu en hiver.
Oui.
Vous verrez qu'il y aura des polémiques. Ensuite, il y a le coût de cette compétition.
Oui, mais ce sera trop tard.
Troisièmement, il y a
polémique,
toute la question
ça
sur...
Ça ne sert à rien une fois que c'est organisé.
Non mais quand même, la population qui n'a pas forcément vécu toute la polémique qu'il y a eu, y compris les aspects critiquables et peut-être des faits de corruption. En tout cas, ça a été avancé par certains. Je pense que ça, le grand public va le découvrir en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait à faire une Coupe du Monde au Qatar où il n'y aura pas grand monde dans les stades.
Allez, messieurs, dames, vous restez avec nous. 18h46 sur Europe 1. Dans un instant, America is back. Biden, Poutine, l'autre match de la semaine. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Thierry Dagiral.
Et à 18h48, la deuxième partie de votre débat des grandes voix ce soir avec Laetitia Krupa, journaliste politique, Philippe Moreau-Chevrelet, spécialiste de la communication politique, Bruno Jeudy, éditorialiste et rédacteur en chef à Paris Match. Madame, monsieur, on va parler de la première tournée européenne de Joe Biden à présent en Europe. Réussie ou pas, Laetitia Krupa?
Oui. J'ai répondu oui, parce qu'en fait, ce qu'on attendait, c'est de savoir comment, après Donald Trump, les États-Unis allaient agir sur la scène occidentale, mondiale évidemment, parce qu'il y a eu cette rencontre avec Poutine qui a été scrutée avec cette petite guerre, forcément,
la guerre.
Ah oui, quand même, qui a été très loin, hein, je veux le tuer. Enfin bon, on a été quand même très très loin. Bien sûr qu'on était tous en train de scruter cette tournée européenne de Joe Biden, et il me semble que oui, c'est réussi parce qu'il marque le pas, parce qu'il imprime un style, c'est ce qu'on attend d'un nouveau dirigeant, surtout à ce niveau-là, et que Donald Trump, finalement, bien sûr, est encore dans toutes les mémoires et encore en nombre et encore à la télévision, puisqu'il fait son comeback.
Bien sûr.
Vous l'avez vu sur Fox News, hein, alors qu'on pensait que c'était fini entre eux. Mais voilà, oui, Joe Biden, il me semble que d'un point de vue de communication politique, c'est réussi.
Il a clairement, en effet, Bruno Jeudy, marqué ses différences avec Donald Trump. On l'a vu également pendant G7 hein, en Angleterre. Sur la relation avec l'Europe.
Absolument. Moi, je dirais très réussi. Je suis frappé par la méthode Biden. Il a tardé à venir en Europe.
Mais c'était précis et préparé.
Il a les idées claires. Il a remis. Il a essayé de réaligner le monde occidental derrière des positions, derrière un multilatéralisme concret et on espère efficace maintenant. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il a d'emblée repris le leadership qui, évidemment, était devenu évanescent avec Donald Trump, l'imprévisible Donald Trump qui, souvenez-vous, lors du G7 au Canada, avait déchiré l'accord dans l'avion. C'était n'importe quoi. Ouais. Donc là, à nouveau, on peut se dire que certaines décisions, en plus, ça a avancé concrètement sur certains dossiers. Et, effectivement, c'est pas allé assez loin sur les vaccins. 1 milliard de doses, évidemment, il faudrait multiplier par 10 pour pouvoir vacciner 60% ou 50%, je sais plus, de la population africaine, par exemple. Mais on sent qu'il y a à nouveau un alignement du monde occidental qui, de toute façon, on voit bien, l'Europe ne peut pas tout faire et l'Europe a du mal à être... on le sait, on connaît les faiblesses de l'Europe sur des dossiers. Ce qu'il avait fait, il avait bien préparé aussi avec, sur le climat. Et son sommet des démocraties, c'est intéressant parce qu'on voit bien aujourd'hui que la notion même de démocratie est remise en cause par à la fois les mouvements populistes en Europe et ailleurs, mais aussi porté par le complotisme qui s'est développé puissance 10 avec le Covid. Donc il y a quelque chose d'intéressant. Maintenant, il faudra voir sur la durée, parce que le problème de Joe Biden, c'est qu'il a les élections de mi-terme. Ouais. Et est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est pérenne, les positions de Biden? C'est toute la question. Et c'est pour ça que les Européens, et notamment Emmanuel Macron, ils sont tentés de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Mais on voit bien quand même qu'il y a quelque chose qui se construit.
Mais là où c'est réussi, juste pour finir, et pourquoi ce serait un modèle à suivre, il me semble, c'est qu'avec cette tournée, on comprend tout des positions de Joe Biden. C'est ça aussi la politique, c'est de faire comprendre et faire savoir où on va, quelles sont les grandes lignes de la politique et l'administration Biden pour en tout cas, c'est très clair.
Philippe Moreau-Chevrolet, Poutine dit il n'y avait aucune animosité entre nous. Bon, ils ont convenu du retour de leurs ambassadeurs respectifs à Moscou, à Washington. Il n'y a tout de même pas eu de conférence commune.
Non, évidemment, c'est un peu les relations se sont considérablement tendues entre Poutine et Biden parce que on peut dire qu'il y avait une sorte d'entente cordiale entre Donald Trump et Poutine, peut-être même un peu plus. Ouais. Là, on est parti sur un autre climat. Tout de suite, parmi les premiers actes que Biden a fait quand il est arrivé, il y a eu une déclaration assez hostile envers Poutine et une remise en gros des pendules à l'heure. Hein. Mmh. Une tension qui a été perceptible, qui a fait craindre d'ailleurs que ça se tende encore plus. Après, ce que fait Joe Biden est assez clairement une reprise de leadership, comme l'a dit Bruno jeudi.
C'est ça.
Une reprise sur le camp occidental, notamment sur la France, avec la volonté de dire voilà, moi, les États-Unis sont de retour, donc la diplomatie, on va essayer de la faire d'une seule voix face à la Chine, face à Poutine. On va essayer aussi de gérer les choses de manière un peu plus intelligente que ce que pouvait faire son prédécesseur. Biden a énormément surpris parce qu'il a posé des actes. Il n'a pas beaucoup communiqué en soi, mais il a posé des actes. Il a tout de suite géré l'épidémie. C'est sa priorité numéro un et il en parle beaucoup. Et il est constamment sur le terrain de l'épidémie en disant « vaccinez-vous ». Il fait ça tout le temps. C'est très efficace, il est très présent. Et ensuite, il a, sur le terrain de la diplomatie, tout de suite pris des positions très clivantes avec les différents partenaires pour dire « voilà où sont les limites du jeu qu'on va faire ». C'est remarquable parce qu'il l'a fait en très peu de temps, parce qu'on pensait que c'était un vieux papier ringard qu'on allait facilement pouvoir balader. C'est pas le cas du tout. Et il défend même, ça va beaucoup plus loin, parce qu'il arrive à avoir des positions consensuelles avec les Républicains, notamment sur l'Obamacare, où il gagne du terrain, ce qui est assez remarquable, sur la protection sociale aux États-Unis. Et il a un discours pour l'imposition des multinationales qu'il est en train de traduire dans les faits. Donc on est véritablement face à quelqu'un qui a un projet qu'il déploie en très peu de temps.
Et pour terminer, vous l'avez dit Philippe, et on termine avec Laetitia sur ce point-là, ils ont également un objectif commun, un ennemi commun, la Chine.
Oui, là, ils peuvent s'entendre. Mais si vous voulez, pour l'instant, c'était de la diplomatie de façade. Hein. On est d'accord, c'est d'une grosse, grosse mise en scène. On parlait de football tout à l'heure. Mais alors, la rencontre Poutine-Biden, c'est une pièce de théâtre, une tragédie. On n'en connaît pas encore la fin. Donc, si vous voulez, pour l'instant, oui. Mais tout cela, il va falloir vraiment qu'on regarde mois après mois comment, dans les actes, ça se concrétise.
Thierry Dagiral, les grandes voix.
Alors, avant de se quitter, les grandes voix, vos traditionnelles vues, lues, entendues de la semaine, on commence avec, allez, Laetitia.
Eh bien, écoutez, puisque la lecture est à la mode après cette séquence absolument hallucinante, j'ai trouvé, d'Emmanuel Macron et de Fabrice Lucchini, version La Fontaine, c'est un avis personnel. Moi, je vais vous inviter à un autre festival, un peu plus peut-être chaleureux et en tout cas accessible au plus grand nombre. Il s'appelle Des livres, des stars, c'est... la semaine prochaine, samedi dimanche. C'est la 5e édition, mais c'est la première fois que ce festival vient à Paris. Je vous explique le concept.
Allez-y.
Des livres, des stars, facile. D'accord. Des célébrités et leurs ouvrages. Et l'objectif de faire venir à la lecture ou revenir à la lecture, peut-être des Français qui s'en seraient éloignés, qui n'auraient pas idée grâce à la notoriété. Voilà, donc des rencontres, des mini-conférences, des lectures, des dédicaces, évidemment, pendant deux jours à Paris, 7e arrondissement, place de Fontenoy.
Allez, rapidement, vu, lui entendu, Philippe Moreau-Chevrolet.
Oui, alors moi, c'est la prise de position de la Société française de pédiatrie que le monde entier nous envie, puisque c'est la seule association de pédiatres au monde qui pense que les enfants ne sont pas contaminants ni contaminés par le Covid-19 et qui, tranquillement là, à quelques semaines des vacances, alors que les parents se disent que s'ils n'ont pas été contaminés jusqu'à présent, c'est quand même pas mal et qu'on aurait bien gardé ça comme ça, paf, la Société française de pédiatrie demande qu'on ne porte plus le masque à l'intérieur des écoles. Ce qui est d'une aberration totale, parce qu'avec le variant Delta, c'est l'endroit où ça se propage le plus, parce qu'avec le variant Delta, on voit des enfants aller à l'hôpital. Donc c'est une décision véritablement aberrante qu'on ne comprend pas, qui est dénoncée par l'ensemble de la communauté médicale et de la communauté scientifique. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe à la Société française de pédiatrie? On ne comprend plus, est-ce qu'il y a encore un pilote dans l'avion?
C'est dit. Vu, lui entendu, il reste 25 secondes à Bruno Jeudi.
Alors rapidement, j'ai vu le film Président avec Jean Dujardin et Grégory Gadebois.
C'est bien.
C'est un très bon scénario, c'est très bien écrit. Je vous conseille d'aller le voir, allez vite. Une petite précision, Sarajevo, c'est la capitale de la Bosnie-Herzégovine.
Oui.
Mais on était dans l'ex-Yougoslavie.
Merci à vous trois, belle soirée. Et à demain.
Europe 1, Thierry Dagiral.